Bonsoir. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, faisant allusion à l'envoi en RDC de la brigade d'intervention de l'ONU, a déclaré lundi dernier devant la presse qu'une solution militaire ne résoudra pas les problèmes dans l'est de la RDC. C'était après une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la prévention des conflits en Afrique qu'elle venait de présider. Pour sa part, le M23, dans sa dernière déclaration, affirme qu'avec l'arrivée de cette brigade en RDC, c'est soit Kinshasa qui gagne, soit le M23. Comment analyser ces déclarations? Pour en parler, nous recevons l'honorable Grégoire Kirunsongo, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire des GPLDS à l'Assemblée nationale. Il est élu de la ville de Beni au Nord Kivu. Honorable Kiro, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tchamala, bonsoir.
Bonsoir, mon frère.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La brigade d'intervention que l'ONU va déployer dans l'est de la République démocratique du Congo pourra avoir un rôle de dissuasion, mais le plus important est le processus politique. Déclaration de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo l'a dit lundi dernier après une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la prévention des conflits en Afrique qu'elle venait de présider. Le M23 de son côté multiplie des déclarations qui vont dans le sens de réfuter l'idée même du déploiement de cette brigade en RDC. Kelly Nkoute pour les détails.
Nous ne pensons pas qu'une action militaire soit la solution aux problèmes dans l'est de la RDC, affirme Louise Mushikiwabo. D'après le chef de la diplomatie rwandaise, le Rwanda considère la brigade comme un moyen de dissuasion, une présence nécessaire, mais qui doit être complétée par d'autres aspects, lesquels Louise Mushikiwabo cite le volet politique du conflit. Le M23, pour sa part, estime qu'avec l'arrivée de cette brigade, je cite, « c'est soit Kabila qui gagne, soit le M23 qui gagne ». Fin de citation. Ces propos de Vianney Kazarama, porte-parole du M23, interviennent 5 jours seulement après ceux tenus vendredi dernier par ce même mouvement rebelle. Cette fois-là, le M23, se confiant à l'AFP, déclarait qu'il se réservait le droit de riposter en cas d'attaque de la brigade d'intervention. Kinshasa, de son côté, refuse de réagir à toutes les déclarations du mouvement rebelle. Rappelons que la brigade d'intervention de l'ONU va compter un peu plus de 3000 hommes d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Le M23 fait d'ailleurs pression pour que l'Afrique du Sud et la Tanzanie annulent l'envoi des soldats dans une lettre adressée jeudi dernier au Parlement tanzanien.
Merci Kevin Kouté. Notez que des dizaines de rebelles du M23 qui s'étaient réfugiés au Rwanda lors de la défaite de Bosco Ntaganda ont regagné le M23 du général Sultani Makenga. Information confirmée par le lieutenant-colonel Vianney Kazarama. Nous avons 150 hommes qui se sont rendus et environ 300 qui ont été capturés au niveau de Kibumba, à la frontière avec le Rwanda. Nous les avons réintégrés dans nos brigades, a-t-il affirmé, se confiant à l'AFP. La MONUSCO ne se laissera pas intimider par des menaces proférées par le M23, inquiet du déploiement futur de la brigade d'intervention. Selon son porte-parole militaire qu'il a dit ce mercredi au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, le M23 continue de sensibiliser sans succès les populations civiles des territoires sous son occupation et menace d'attaquer la brigade d'intervention une fois déployée. Pour le lieutenant-colonel Félix Basse, les opérations unilatérales sont toujours menées dans la province du Nord Kivu dans le but de contrer toute menace des groupes armés et maintenir une sécurité optimale dans et autour de la ville de Goma. On écoute le lieutenant-colonel Félix Basse dans cet extrait de Michel Kifindangoy.
depuis que la résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité, nous sommes en train de travailler premièrement au déploiement de cette force au sein de l'entité globale qui est la force de la MONUSCO, mais aussi nous avons prévu des plans de contingence pour contrer toute velléité d'attaque ou d'offensive contre la ville de Goma. Maintenant, les réactions que je considérerais peut-être épidermiques du M23 par rapport à cette situation ne nous empêchent pas de poursuivre notre travail dans la sérénité, parce que ce soit avec cette brigade d'intervention ou avec la brigade du Nord Kivu qui est sur le terrain, notre préoccupation majeure, c'est la protection des populations civiles. Autant la brigade d'intervention aura une mission spéciale à l'intérieur de ce mandat qui nous a été donné, autant les autres composantes aussi de la MONUSCO qui font partie de la force contribueront à réduire à néant les effets négatifs que les autres groupes armés sont en train de semer dans la province du Nord Kivu.
Franklin Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. On est là en présence de plusieurs déclarations. D'abord, la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui déclare qu'en RDC, le plus important est le processus politique. Le M23 qui multiplie des déclarations depuis l'adoption de la résolution 2098 et la MONUSCO qui rassure qu'elle ne se laissera pas intimider par ces menaces proférées par le M23. Comment vous analyser tout ça?
Bon, merci beaucoup pour l'invitation à cette émission. Je note de la part du M23 qu'il s'agit là des cris qui s'apparentent aux cris de détresse, si pas des déclarations de désespoir. S'agissant du Rwanda, qui a une certaine convergence d'intérêts avec le M23, il s'agit d'un certain éveil tardif du bon sens, parce qu'en fait, le Rwanda, comme vous le savez, est signataire de l'accord cadre sur la paix et la sécurité dans la région en RDC et de coopération dans la région des Grands Lacs. Cet accord cadre que le Rwanda a signé, c'est un accord qui est clair parce qu'il préconise le redimensionnement de la MONUSCO. On sait que il entrevoit la possibilité de doter la MONUSCO d'un équipement de surveillance à même de lui permettre de surveiller la frontière de notre pays avec le Rwanda. Alors, le même accord est celui qui préconise l'intégration au sein de la MONUSCO d'une brigade spéciale d'intervention qui a une mission offensive en vue de l'éradication des forces négatives à l'est de notre pays. Le même accord est celui qui préconise la réactivation de la coopération régionale entre les pays de la CIRGL, en vue de pouvoir faciliter l'exploitation dans la transparence des ressources naturelles transfrontalières qui sont probablement à la base de cette guerre de prédation dont en fait les Rwandais est cité parmi des prédateurs. Alors maintenant, la résolution elle-même, la résolution 2098, qui a été adoptée au Conseil de sécurité à l'unanimité, le Rwanda y compris, c'est une résolution qui comprend, outre le volet qui consacre les déploiements de la brigade elle-même, c'est une résolution qui a aussi un volet politique. On sait qu'il préconise la promotion avec le concours de l'envoyé spécial du secrétaire général, aussi bien dans la région des Grands Lacs que à l'est de notre pays, en fait en RDC. C'est une résolution qui préconise la promotion du dialogue politique au sein de notre pays afin de pouvoir permettre un apaisement et une organisation apaisée des élections provinciales et locales. Et donc, mais que le Rwandais se soit aperçu maintenant, à l'instar de notre pays, qu'au-delà de l'action militaire conséquente aux élans belliqueux des alliés du Rwanda. Et donc, que le Rwanda se soit aperçu en définitive qu'au-delà de cette action militaire, il faille une action politique et une action diplomatique
en RDC.
En RDC, des options qui ont été préconisées pendant longtemps par le gouvernement de la République démocratique du Congo, conduit par le président de la République, Joseph Kabila, que le Rwanda se soit aperçu que c'est cela la voie logique, nous disons que c'est un éveil tardif du bon sens.
Alors un éveil tardif du bon sens, vous rappelez là les volets politiques, militaires et diplomatiques que le chef de l'État a souvent soutenu dans ses déclarations, mais aujourd'hui on pourrait se poser la question des résultats produits par ces trois volets.
La résolution 2098, l'accord cadre lui-même, sont le résultat, d'abord, de l'action diplomatique menée par notre gouvernement et de l'action politique engagée par notre gouvernement, aidée par ses partenaires, aussi bien dans la région que au niveau international.
Mais plusieurs observateurs n'y ont vu que des accords venus de l'extérieur, que la RDC n'a fait qu'entériner, qui ne venaient pas de lui.
N'oubliez pas que les déploiements de la brigade spéciale d'intervention a été une idée qui a germé d'abord au sein de la CIRGL et sur laquelle la RDC a travaillé avec ses partenaires ailleurs pour obtenir aujourd'hui ce qui s'est mué en brigade spéciale d'intervention. Et donc, c'est des choses retraçables. Donc, ici donc, l'action de notre gouvernement, l'action diplomatique de notre gouvernement, l'action politique de notre gouvernement a porté des fruits qui sont palpables en ce moment, mais des fruits, il faut dire, qui ne sont peut-être pas consommables en ce moment, mais qui les seront demain, probablement.
Honorable Grégoire Kirontongo, vous êtes député national de l'opposition, membre du groupe parlementaire GPLDS à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de la ville de Bénion-Nord-Kivu. Vous venez de suivre Franklin Tshamala. Quelle est votre perception par rapport à toutes ces déclarations?
Je vous remercie beaucoup pour la parole. Je commence par saluer tous les auditeurs de la radio Okapi. Mais avant, j'aimerais apporter un bémol à ce que mon co-débatteur il vient de dire tout tantôt, parce qu'en parlant de victoire diplomatique, il dit que tout ce qui est en train de se passer, ça veut dire la venue prochaine de la force internationale, ça fait partie des victoires diplomatiques du gouvernement. Je crois qu'il n'en est pas le cas. Je crois que effectivement, tout ce qui est en train de se faire, la RDC ne fait que subir. Et s'il y avait victoire diplomatique, je crois qu'elle se traduirait d'abord par l'empêchement de ce que le Rwanda se retrouve à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que ça serait vraiment une victoire diplomatique. En dehors de cela, mais tout le reste là, ce n'est rien, parce que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer, c'est que Madame la ministre rwandaise des Affaires étrangères, au sortir d'une réunion aux États-Unis, elle dit que bon, la solution militaire d'accord, mais bon, il vaut mieux une solution politique. Ça veut dire que elle est en train de contester elle-même ce que le Conseil de sécurité a décidé à propos de l'envoi d'une force pour neutraliser les forces négatives ici au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est la ministre des Affaires étrangères d'un État qui est dans l'ambivalence dans ce sens que, d'un côté, il est à la tête du Conseil, à la présidence du Conseil de sécurité pour un mois, et d'autre part, ce même pays est agresseur de la RDC. Vous voyez où se trouve le problème. Alors, pour revenir à votre première question, je disais que toutes ces déclarations, toutes ces élucubrations du M23, etc., sont la preuve que le M23 et le Rwanda mènent le même combat. Ils mènent le même combat. Ce sont des gens qui ne veulent pas que la paix s'installe en République démocratique du Congo. Moi, je ne peux pas m'expliquer comment le M23, qui a déjà la chance de n'avoir pas été cité comme force négative, plutôt que de se contenter de cela, commence à dire, voilà, nous allons tirer sur la force internationale, etc. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, quand elle parle d'une solution politique plutôt que d'une solution militaire, alors que le Conseil de sécurité a décidé de l'envoi de troupes ici pour traquer toute la force négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame la ministre des Affaires étrangères, elle n'ignore pas que parmi les forces négatives, il y a aussi les fameux FDLR. Ça veut dire que le M23 qui est en négociation avec le gouvernement, ça c'est un volet, mais l'autre volet c'est toutes les forces négatives. Il y a le FDLR, il y a tous ces Mai Mai, il y a tous ces EDF Nalu. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête quand elle ne veut pas qu'on utilise la force contre toutes ces forces négatives?
Mais honorable Kiro, quand Madame la ministre Moshikiwabo parle, dit que le plus important est le processus politique, ne ferait-elle pas allusion, je parle au conditionnel, ne ferait-elle pas allusion à Kampala où peut-être le Rwanda attendrait un accord entre le gouvernement et le M23?
Mais ça ne sert à rien de le rappeler parce que le gouvernement est en pleine négociation avec le M23 à Kampala.
Et donc, un accord entre le gouvernement et le M23 arrangerait Kigali?
Je doute qu'un accord pareil arrangerait Kigali, franchement, parce que Kigali a des intérêts à l'est de la RDC, et pour Kigali, il est hors de question que la paix revienne là-bas. Ça veut dire quoi? S'il y a une force internationale qui s'amène à l'est de la RDC, cette force va traquer tout le monde, y compris les FDLR. Or, les FDLR, tout le monde sait que le Rwanda en fait un fonds de commerce.
Alors, je disais tout à l'heure que des dizaines de rebelles du M23 qui s'étaient réfugiés au Rwanda lors de la défaite de Bosco Ntaganda ont regagné le camp du général Sultani Makenga. On se souvient que le gouvernement et beaucoup d'autres observateurs avaient crié à la scission, à la division et même à la fin du M23. Mais là, on se rend compte qu'on est pratiquement dans la logique qu'avait soutenue la société civile du Nord Kivu quand elle parlait de mascarade, honorable Kiro.
Je crois effectivement qu'il s'agit d'une mascarade. Le Rwanda, c'est un État hyper militarisé, c'est un État policier. À partir du moment où tous ces militaires mutins qui avaient été mis en déroute par Sultani Makenga s'étaient retrouvés au Rwanda, dans un premier temps à la frontière, dans un deuxième temps à plus de 50 km à l'intérieur des terres rwandaises, vous pouvez être sûr, vous pouvez être convaincu que le moindre mouvement de ces mutins doit être suivi par Kigali. Ça veut dire que s'ils ont pu quitter là où ils se trouvaient pour se retrouver de l'autre côté de la frontière, du côté de la RDC, pour rejoindre Sultani Makenga et son M23, ça veut dire que ça doit s'être fait avec la bénédiction des autorités rwandaises.
Oracle de Kalemi au Katanga, je trouve que la force neutre ne pourra rien changer si ce n'est que jeter de l'huile sur le feu, car les grandes puissances vivent en dépendant des richesses de l'Est, que le gouvernement soit responsable au lieu d'être parasite. Honorable Kiro, là où, au moment où presque tous formulent des espoirs par rapport à l'arrivée de la brigade d'intervention, mais il y en a qui sont quand même sceptiques, tels que cet auditeur qui pense que ce serait jeter de l'huile sur le feu.
Je ne pense pas que ça serait jeter de l'huile sur le feu. Je crois plutôt que c'est une opportunité pour nous, Congolais, de profiter du fait qu'il y a une brigade internationale qui arrive, qui va faire le travail. Ça veut dire chasser toutes ces forces négatives à notre place. C'est une opportunité pour nous de refaire notre armée pendant que cette brigade sera ici, parce qu'elle a quand même un mandat de une année. Vous savez comment les choses se passent aux Nations Unies. Quand on dit une année, c'est certainement une année renouvelable autant de fois. Donc nous avons vraiment l'opportunité de former une armée. Je crois que nous, ne serait-ce que de ce point de vue-là, elle doit être la bienvenue, cette brigade-là.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, ce n'est pas la première fois qu'on aborde avec vous cette question de l'Est dans cette émission. Professeur, vu les choses telles qu'elles évoluent sur terrain, les différentes déclarations, à ce jour, avez-vous l'impression que la situation évolue, qu'on stagne, qu'on est dans un enlisement? Professeur, quelle est votre analyse?
Merci pour la question pertinente. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, faire un peu de pédagogie, sinon les auditeurs risquent de ne plus se retrouver avec tout ce qui se passe dans la région. Vous devez savoir que l'on doit mettre en perspective plusieurs choses qui se passent. Il y a dans un premier temps une dynamique qui a été lancée par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et cette conférence a abouti avec l'appui de l'Union africaine sur les négociations des Kampala qui sont en cours. Dans les résolutions et les décisions qui ont été prises, le M23 est considéré comme partie prenante dans les discussions, et c'est sur base de ça qu'il y a une négociation des Kampala. Alors quand on dit que le M23 est partie prenante, ça veut dire que le M23 n'est pas force négative dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre des accords qui ont été conclus au niveau de la conférence internationale. Sinon, pourquoi le gouvernement congolais serait là à Kampala en train de négocier avec le M23 sur justement les accords du M23, comme vous le savez, les accords du 23 mars, comme vous le savez, ce sont des accords qui ont permis l'intégration donc des anciens rebelles, miliciens, je ne sais plus quel terme il faudrait qu'on utilise pour les qualifier, dans les processus de réinsertion, de réforme de l'armée, etc. Et aussi le M23 avec la transformation du CNDP en force politique qui intègre la majorité et qui intègre la majorité présidentielle ainsi que la majorité parlementaire. Ça, c'est une chose. Parallèlement à ça, l'ONU, qui est un peu pris de court par cette dynamique, se retrouve pris en difficulté du fait qu'elle avait déjà sur le terrain n'a pas appliqué le mandat pour lequel le Conseil de sécurité l'avait mandaté et avec le terme de référence clair, a laissé le M23 prendre la ville de Goma et avec les conséquences que l'on connaît, qui sont des conséquences désastreuses, non seulement pour les populations civiles, mais aussi sur la crédibilité même des forces des Nations Unies. Et sur base de ça, l'ONU essaie de rattraper le coup et impulse une diplomatie offensive dans laquelle cette diplomatie aboutit à ce qu'on va appeler les accords du 24 février. Ces accords du 24 février qui sont définis dans un accord cadre. Et dans ces accords-là, on définit le M23 non plus comme une force, entre guillemets, partie traînante, mais le M23 est force négative. Et dans cette dynamique, on a la signature de pays régionaux qui accepte, qui avait déjà dans un premier temps accepté que le M23 soit une partie prenante, et dans un deuxième temps accepte que maintenant le M23 soit identifié comme force négative. Alors je me pose la question sur la crédibilité et même l'utilité de la poursuite des négociations qui sont en train de se faire à Kampala dans ce contexte, en sachant que l'ONU est en train de mettre en place une dynamique dans laquelle on met en place une force d'intervention rapide qui va mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives, et dans les forces négatives, il y a le M23. Alors je me pose la question pour savoir si les anciens M23 qui vont intégrer la nouvelle armée sur base des discussions qui sont en train de se passer de Kampala vont être poursuivis par la nouvelle force d'intervention rapide ou pas. Et donc ça crée, je m'excuse de le dire, une espèce de confusion dans laquelle même une poule ne pourrait pas retrouver ce poussin. Et c'est assez incompréhensible de voir effectivement l'évolution de la situation où on ne sait pas vers quoi on va. Alors une chose sur laquelle je suis d'accord avec la ministre des Affaires étrangères rwandaise, quand elle dit, quand elle a au moins l'honnêteté de reconnaître devant le Conseil de sécurité que l'option militaire n'est pas la solution, pour la bonne et simple raison que l'on sait très bien que depuis 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012 et 2013, il n'y a que l'option militaire prônée par le Rwanda pour continuer à avoir la mainmise sur la partie qui l'intéresse en RDC, qui est la partie orientale. Et donc, si la ministre dit que l'option militaire n'est pas la solution, moi je la crois que l'option militaire n'est pas la solution pour la bonne et simple raison que le Rwanda n'a aucun intérêt à ce qu'il puisse y avoir la paix dans cette partie de la région.
Professeur.
Et de ce fait, elle accrédite l'hypothèse qu'il n'y aura pas de paix tant qu'on opte pour l'option militaire.
Professeur, en passant, vu que le Rwanda préside le Conseil de sécurité de l'ONU en ce moment, ne devrait-il pas être tenu au droit de réserve?
Non. Vous ne devez pas confondre, c'est-à-dire que l'ONU n'est pas un acteur tel qu'on peut le définir. Il y a des politistes, il y a des spécialistes en relations internationales qui définissent l'ONU comme un acteur international. Pour ma part, non, l'ONU n'est pas un acteur international. L'ONU n'est que la représentation de la multiplicité des pays qui sont représentés au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale. Et donc, le droit de réserve, je ne pense pas que l'on peut se parler de droit de réserve, puisque le Rwanda dit clairement ses positions par rapport aux options. Et alors, ce que je dois aussi souligner de manière très claire, Monsieur Hirung, c'est que quand le Rwanda dit que ce n'est pas l'option militaire, vous devez savoir que dans la résolution, de manière très claire, on demande à l'envoyé spécial des Nations Unies de pouvoir justement organiser des pourparlers et des rencontres politiques dans lesquelles toutes les parties doivent être représentées.
Merci.
Pour amener la réconciliation et pour amener la paix dans la RDC. Et c'est bien spécifié dans la résolution. Donc il n'y a pas que l'option militaire qui soit précisée dans la résolution. Donc l'option situation et la politique rwandaise n'est pas en contradiction avec ce qui est dans la résolution qui vient d'être adoptée au mois de mars 2013.
Merci,
donc il
n'y
a pas de droit de réserve. Le Rwanda a le droit de dire ce qu'il doit dire. Et Madame la ministre des Affaires étrangères a au moins l'honnêteté de dire l'option pour le Rwanda n'est pas l'option militaire. L'option pour le Rwanda reste l'option de discussion qui vont aboutir à l'intégration du M23 et qui n'est pas non plus le garant de la paix à l'est de la RDC.
Merci professeur. Et sur place à Goma, les femmes soutiennent l'arrivée de cette brigade internationale d'intervention pour éradiquer les groupes armés. Elles ont manifesté au cours d'une marche organisée ce mercredi à Goma. Ces femmes dénoncent par contre le transit des matériels de cette force internationale par l'Ouganda, l'un des pays qu'elles considèrent comme agresseur de la RDC. Pour elles, c'est une façon de réarmer les groupes rebelles, notamment le M23, les FDLR. L'une des manifestantes est au micro de Denise Loukesso.
La position des femmes est que la brigade travaille aux côtés des FRDC. Nous la soutenons, mais pourvu que le matériel ne passe pas par les pays agresseurs. Nous avions demandé qu'il y ait une force internationale qui va venir renforcer les FRDC. Et maintenant, nous sommes inquiètes de voir que l'équipement de cette brigade-là passe par l'Ouganda, l'un des pays agresseurs de la RD Congo. C'est ça notre inquiétude. Et pour nous, nous pouvons nous permettre de dire que c'est une façon de réarmer les M23. Nous voulons que le matériel arrive directement à la République démocratique du Congo.
Ça, ce n'est qu'un transit.
Les Nations Unies vont vouloir faire passer ça par la route. Et on va confisquer ça comme on a fait la semaine passée. On a mis la main sur le matériel de la MONUSCO. Et nous craignons que les rebelles mettent la main sur cet équipement-là.
Réagissant à ces craintes de certains habitants de Goma quant au transit du matériel de la brigade d'intervention par l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, Madno Jomunubai, porte-parole de la MONUSCO, a appelé la population au calme. Il a dit la semaine dernière dans l'émission Dialogue entre Congolais, répondant au parti SID Goma qui avait soulevé cette question. On l'écoute.
Oui, j'aimerais que les esprits se calment. Comme vous le savez, l'aéroport de Goma a été réduit par les laves qui ont coulé là-dessus. Les gros porteurs ne peuvent pas s'y poser. Il est tout à fait normal qu'on cherche un autre aéroport pour déposer tout ce gros matériel et ensuite les amener sur Goma.
Pourquoi pas Kinshasa, par exemple?
Ben, il y a une distance. La distance est beaucoup plus grande entre Kinshasa et Goma par rapport à Entebbe. Et il y a un coût pour tout cela. Donc, il faut voir aussi le côté coût.
Franklin Tchamala, mobilisation sur terrain, contre-mobilisation. Entre-temps, il y a Jean-Louis Tison de Manono Katanga qui dit « La solution militaire à l'Est, la solution négociée à Kampala, cela ne va-t-il pas fragiliser celle qui est négociée ? Pourtant, le gouvernement à une minute semble intégrer déjà le M23 dans l'armée. » Christian Sieboa Diagoya de Kinshasa. « Moi, je pense qu'il est important de terminer les négociations à Kampala car c'est l'une des options que le gouvernement avait choisie au lieu de renforcer les FRDC longtemps sous-équipés. Les tâtonnements de Kinshasa, les tapages du M23 et les garanties de l'ONU ne rassurent pas la population car beaucoup de crimes et violations des droits humains se commettent souvent sous les yeux de ces mêmes acteurs. Franklin Tchamala.
Bien, merci beaucoup. Je m'interroge en réponse à tout ça. Je me pose la question de savoir comment le Rwanda, qui jusqu'à peu s'est vanté de ses prouesses militaires dans la région de Grand Lac, ou en Afrique, au point de se moquer par moment de la MONUSCO et de ses forces, et même des armées belges et françaises. Comment le Rwanda, qui jusqu'à peu s'est vanté de ses prouesses, en vient maintenant à se lamenter à propos du déploiement de la brigade spéciale d'intervention, qui ne sera, elle, composée que des armées africaines? Comment? Et c'est des lamentations pratiquement qui s'apparentent à une expression de peur. La peur a-t-elle changé de camp? Comment la peur a-t-elle changé de camp? Qu'est-ce que le Rwandais entrevoit demain au travers du déploiement de cette brigade? Les Congolais n'ont pas une vocation guerrière. Nous avons d'autres préoccupations qui sont celles de développer notre pays.
Mais entre-temps, Franklin Tchamala, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba qui finalement aussi s'est demandé où allons-nous, vers où allons-nous dans tout ça. On semble être dans une confusion indescriptible.
Je pense qu'il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas de confusion, les lignes sont bien tracées, ce qui est fait sur le plan en vue des actions militaires est bien tracé, ce qui est fait en vue des les actions diplomatiques est bien retracée, j'en passe de meilleur. Maintenant, est-ce que les dialogues ou les pourparlers qui se font à Kampala entre les gouvernements congolais et l'M23 entravent une quelconque disposition de la résolution 2098 ou de l'accord cadre? Non, pas du tout. Est-ce que la brigade d'intervention qui vient pour tirer comme ça à l'aveuglette partout? Non. Quand vous lisez la résolution, il est bien dit que cette brigade vient pour mener des actions ciblées. C'est des actions qui se feront après élaboration des plans opérationnels assez méticulés pour faire en sorte que dans ces agglomérations où vivent nos populations civiles, qu'il y ait les moins possibles des dégâts sur les populations civiles. Et donc, je pense que une vue de la synergie de ces actions-là au plan militaire, au plan diplomatique, au plan politique, converge vers la restauration de la paix dans la région du Grand Lac et dans l'est de notre pays. Et donc, il faut attendre un début de mise en œuvre pour commencer à en apprécier les niveaux d'efficience ou les niveaux d'inefficience. Il est trop tôt en ce moment de pouvoir émettre un jugement de valeur là-dessus.
Teddy de Bukavu Sud-Kivu, les propos de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda et la récente déclaration du M23 prouvent à suffisance que malgré les accords d'Addis Abeba et la résolution 2098 de l'ONU, le Rwanda n'a pas encore dit son dernier mot sur son soutien au M23 et ça présage déjà la résistance à laquelle fera face la brigade d'intervention de l'ONU. C'est pourquoi, pour éviter un nouveau bain de sang, le dialogue national inclusif serait nécessaire avant l'arrivée de cette force Franklin Tchamala.
Je pense que ces compatriotes enfoncent une porte ouverte. Le gouvernement de la République a annoncé la tenue prochaine des concertations nationales. L'accord cadre comme...
Ça fera bientôt 5 mois.
Oui, les actions rationnelles sont toujours bien pensées. Elles sont toutes bien pensées, je pense que...
Malgré l'urgence.
Oui, il faut mettre un peu de temps à penser et à planifier une action qui va dans le sens de remédier aux causes profondes de la crise qui traverse notre pays. Bon, maintenant, la résolution 2098 elle-même vient pour renforcer encore cette bonne disposition d'esprit de notre gouvernement et charge l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, dans notre pays, à pouvoir accompagner notre gouvernement dans la tenue de ces concertations, si pas dans la tenue de ces dialogues. Et donc, je pense que c'est une porte ouverte qui est en train d'être enfoncée par les compatriotes.
Honorable Grégoire Kiro, êtes-vous d'avis comme Franklin Tchamala que les lignes sont tracées, les voies sont tracées, tout est clair, ou partagez-vous un peu l'avis du professeur Bob Kababa qui s'est demandé si on n'était pas déjà dans une grande confusion?
Je crois que l'impression d'imbroglio qui se dégage vient du fait que, en fait, tout le monde est victime des tergiversations, entre autres du gouvernement, qui, un jour, dit « on va à Kampala négocier avec le M23 », et qui, quelques temps plus tard, dit « le M23 doit se saborder, il n'y a plus de négociation avec le M23 », avant de se raviser encore une fois pour dire « voilà, on rentre en négociation à Kampala ». Moi, je crois que ce qui est important de faire, c'est, dans un premier temps, finir avec... le M23 à Kampala, parce que les négociations ont déjà été lancées et qu'il y a même une proposition de sortie de crise qui a circulé à Kinshasa qui faisait état de l'intégration dans nos forces armées de militaires jusqu'à un certain grade, je crois des sous-officiers. Je crois qu'il faut absolument que le gouvernement termine avec le M23 une bonne fois pour toutes afin de passer aux choses sérieuses. Les Nations Unies ont prévu d'envoyer un représentant spécial ici à Kinshasa qui aura entre autres tâches celle de peut-être pas de superviser mais au moins de s'assurer qu'il y a tenue de concertation politique. Je crois que c'est ça qui est plus important. Il faut qu'il y ait un consensus
autour de l'idéal que nous devons avoir, celui de remettre ce pays sur les rails.
Samba de Lubudio Katanga, pour mettre fin au problème de la guerre à l'Est, il faut que tous les acteurs politiques qui ont travaillé avec l'AFDEL, le RCD, le CNDP et le M23, ainsi que tous ceux qui ont pris les armes, puissent laisser la chance à ceux qui n'ont pas pris les armes, y compris ceux-là qui n'ont pas signé les accords avec les pays voisins, honorable Kirou. Ça refaire une nouvelle classe politique.
Ça, c'est vraiment un idéal. Je voudrais bien savoir comment cela va-t-il se passer, par une révolution ou par quoi? Parce que si on voit tous les tenants du pouvoir d'aujourd'hui, eh ben, ce sont des gens qui sont venus à partir de l'AFDL. Donc, si on doit faire tabula rasa de tout cela, eh ben, il nous reste quoi? Une nouvelle classe politique. Et son avènement va se faire comment? Par une révolution ou par quelle voie? J'aimerais savoir.
Patrick Kianza, qui nous écrit de la province orientale. Ne soyons pas naïfs, nous les Congolais. Le M23 pèse ses mots lorsqu'il fait de telles déclarations. La seule solution incontestable pour mettre fin à cette crise en RDC repose sur le dialogue réclamé par la population congolaise que le président a promis d'organiser, le respect des conclusions du dialogue de Sun City, dont la synthèse ci-dessous, garantir la diversité au sein des services de sécurité, promouvoir la culture des talents et la méritocratie. Pour renforcer l'État, il faut notamment organiser les états généraux de l'armée, honorable Kirou.
Je crois qu'il a parfaitement raison, cet auditeur. Il fait une analyse correcte. Il faut absolument qu'on passe aux concertations. Il faut que, autour d'une table, on se pose la question de savoir comment on en est arrivé à cette situation où l'armée devient peut-être même pas inefficace, mais inexistante tout simplement. Parce qu'il faut finalement que tout le monde, dirigeants comme société civile, comme tout le monde, se mette une bonne fois pour toutes en tête que nous sommes la RDC, un grand pays potentiellement riche avec un grand peuple, et que nous méritons mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Nous devons avoir un gouvernement responsable, un gouvernement qui est capable de faire en sorte que ce pays décolle une bonne fois pour toutes. Et je crois qu'un gouvernement pareil, il ne peut être issu que de concertation.
Et le temps que prenne finalement l'organisation de ce dialogue, ne vous inquiète-t-il pas?
Il ne m'inquiète pas outre mesure. Je sais que si dans le camp présidentiel, on a eu tendance à tout le temps repousser l'échéance des concertations, c'est parce que à Kampala, il y avait encore des négociations. Je crois que quand ils parlent du mois de mai pour l'ouverture de ces concertations, c'est par rapport à la certitude qu'ils ont que d'ici à cette date-là, ils auront fini avec le M23 à Kampala.
Alors, avant de donner la parole au professeur Bob Kabamba, il y a Chico Siviri qui nous écrit de Lubero, Nord Kivu, qui dit: à mon avis, les déclarations du Rwanda et du M23 peuvent nous permettre de comprendre que nous avons du pain sur la planche, que le gouvernement congolais et le peuple tout entier prennent conscience que seule notre organisation et notre autodétermination nous feront parvenir à une paix durable dans notre pays, car les autres profitent de notre désordre pour faire n'importe quoi, professeur.
Ben, je suis d'avis avec l'auditeur, et vous avez vous-même, en début d'émission, donné la preuve de cet état de fait, c'est que les troupes du M23 qui avaient trouvé refuge au Rwanda ont réintégré le M23, et donc de manière très claire, au lieu que le Rwanda n'arrête ses troupes qui étaient réfugiées chez lui, les désarme et les mettre à disposition de la RDC, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Le Rwanda en a profité pour à nouveau les remettre au M23 plutôt que de les remettre à la RDC, et tout en sachant bien qu'un tel mouvement de troupes n'est possible au Rwanda qu'avec l'accord des autorités rwandaises. Donc c'est tout à fait le cas. Par ailleurs aussi, je voudrais souligner que dans le cas de la résolution du Conseil de sécurité, il est très clair que c'est l'envoyé spécial qui sera chargé donc d'accompagner et de superviser en fait la mise en œuvre des engagements qui ont été pris aussi bien par la RDC que les pays de la région. Et donc ce qui veut dire de manière très claire sur cette question que le Rwanda en tant que partie prenante, l'Ouganda en tant que partie prenante, en tant que membre du Conseil de sécurité actuellement pour le cas du Rwanda, reste un acteur clé et qui pour la gouverne des auditeurs, et que les choses, de mon point de vue, ne changeront pas, resteront dans l'État, et même cette force d'intervention, même si on parle des actions ciblées, mais l'objectif premier de cette force d'intervention est de pouvoir mettre à les nuire, toutes les forces négatives. Et quand on parle des forces négatives, on voit aussi bien les Maï-Maï que le reste de différentes troupes. Et donc là, je pense ici qu'il faut être vraiment très, très, très attentif par rapport à la mise en œuvre de ces différents engagements. Et la mise en œuvre de ces différents engagements, supervisés par la communauté internationale, donc pour le compte de la RDC par rapport au processus interne, ça veut dire réintégration, etc., tout ce qui est mis en place avec les élections et tout qui doit être mis en place, etc., va, de mon point de vue, je n'arrête pas de le dire depuis plusieurs émissions que vous m'invitez sur cette question, que les choses ne vont pas changer et que le 1-23 va rester le 1-23, et je ne doute pas un seul instant que d'ici 2 ans, puisque en calculant la moyenne de la réapparition de nouveaux mouvements rebelles, on tourne autour de 2 ans. Le 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, vous calculez 2006, calculez 2008, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2012 qui continue jusqu'en 2013. Donc je ne doute pas un seul instant que, quels que soient les résultats qui vont être obtenus, qu'il y aura à nouveau un autre mouvement qui renaîtra d'ici quelques mois ou bien d'ici une année ou deux.
Professeur.
Et on sera encore une fois réparti sur la même dynamique que l'on connaît depuis une dizaine d'années.
Alors professeur, en un mot et en guise de conclusion, comment mettre fin à ce cycle, de naissance des mouvements que vous venez de déplorer là?
Mais c'est tout simplement, ça concerne directement la question rwandaise et la question congolaise. Le Rwanda, tant que le Rwanda continuera à pouvoir exister et persister sur le compte de l'Est de la RDC, le Rwanda ne changera pas d'option, d'optique et de politique, puisque cette politique l'y réussit. Pourquoi voulez-vous que le Rwanda change de politique alors que ces politiques arrivent à ce que le Rwanda atteigne les objectifs qu'il s'est fixés? Or, le Congo n'a pas encore, n'est toujours pas en mesure de pouvoir contrer cette politique du Rwanda qui est en place depuis les années 1996 et que cette politique continue, elle réussit au Rwanda. Alors pourquoi voulez-vous demander au Rwanda de changer? C'est au Congo à pouvoir être en mesure de pouvoir changer cette politique
rwandaise
et à pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que le Rwanda arrête
Pouvoir utiliser. Merci professeur, la qualité de votre ligne quand même à se détériorer. Honorable Kiro, le professeur Bob Kabamba est assez sceptique, il craint que les choses ne puissent changer.
Moi je crois que plutôt que d'être sceptique, on peut aussi être un peu optimiste dans la mesure où je crois que cette fameuse force internationale qui vient constitue pour nous une grande opportunité. Dans la mesure où nous allons avoir un peu de temps de répit pour refaire notre armée. Et l'armée étant le reflet de la société, elle est à l'image de cette société. L'armée est par terre autant que la société. Et heureusement que le chef de l'État a vu juste il y a quelques mois, en constatant cela et en décidant de convoquer des concertations. Je crois que moi, je fonde beaucoup d'espoir dans ces concertations parce que c'est de là que va venir, je crois, un nouveau départ. Parce qu'il faut absolument un nouveau départ. C'est-à-dire quoi? L'armée, nous devons la refaire. Mais nous devons aussi refaire l'État en général. Il y a des pans entiers de la République où l'État n'existe pas. Il y a tous ces services de l'État qui sont minés par la corruption quand ils existent. Il y a tout cela, donc il faut tout refondre. Et cela ne pourra se faire que après des concertations politiques.
Et que donc il faut rester optimiste pour vous.
Je crois qu'il faut rester optimiste. De toute façon, il faut l'être.
Franklin Tshamala, en guise de conclusion, il faut rester optimiste. Vous avez suivi les doutes du professeur Kabamba.
Tout à fait, il faut rester optimiste, mais actif. Actif également, parce que vous savez, le Rwanda a développé, en fait, a fondé sa politique de développement sur la promotion des groupes armés à l'aide de notre pays, des groupes armés qui lui facilitent l'accès facile à nos ressources. Maintenant, la communauté internationale est en train de vouloir infléchir cette tendance en voulant engager le Rwanda à fonder sa politique sur la coexistence pacifique des peuples. Est-ce que cela réussira? Je pense qu'il faut demeurer actif et saisi du dossier.
Merci, monsieur, d'avoir participé à ces débats. Je rappelle, Franklin Tshamala, que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Je recevais également le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Autre invité, c'était l'honorable Grégoire Kirunsongo, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire GPLDS à l'Assemblée nationale, élu de la ville de Beni au Nord Kivu. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite et programme sur la Radio de la Paix.